Les grandes gueules. Ah ouais. Toujours. Sprinter demi-portion.
Je rentre dans la même galère que la plupart de mes pères.
Écoute. C'est pour les nôtres.
Tous les nôtres, ils le savent. Condamné à ne pas rester sur la touche. Puis tout jeune, on tente d'esquiver le sol.
À chaque message.
Tous les nôtres, ils le savent. Condamné à ne pas rester sur la touche. Puis tout jeune, on tente d'esquiver le sol.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix du Scénarium. Toutes mes excuses pour les petits soucis de montage lors de la dernière émission et le fait que j'ai dû abandonner l'idée de faire une émission la semaine dernière. Le manque de sommeil aura eu raison de mon attention et j'ai confondu la version avec les fonds sonores et la version brute. Bon, voyez bien l'avantage, ça vous aura au moins permis de voir ce que donne une partie dans sa plus proche version du direct. J'espère que ça a tout de même été une belle expérience pour vous. Hein. Promis, la version de ce soir sera beaucoup mieux travaillée. Mais commençons tout de suite cette émission avec une nouvelle chronique de Nadège qui nous parle à nouveau ce soir de sécurité émotionnelle en jeu de rôle. Avec une chronique sur la sécurité émotionnelle du maître de jeu.
Vous semblez particulièrement perturbé. Vous pouvez me dire ce qui vous est arrivé?
J'ai fait des rêves qui n'étaient pas que des rêves.
Vous êtes fou, mon petit. Car vous êtes fou.
On n'utilise pas ce terme ici.
Lors du dernier épisode, j'ai expliqué pourquoi utiliser de la sécurité émotionnelle en jeu. C'est avant tout un outil, ou plutôt des outils, qui servent à ce que tout le monde s'amuse. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet sous un autre angle. Et les MJ dans tout ça. Les meneurs et meneuses sont aussi des participants au jeu. La principale différence, c'est que souvent, quand on maîtrise, c'est nous-mêmes qui veillons au bien-être de tous à la table. Et gérer sa propre sécurité, c'est quelque chose qui est souvent plus difficile que de gérer celle des autres. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques conseils à ce sujet. Le meneur est un participant au jeu au même titre que les autres, et à ce titre, il a sa sensibilité propre. Il a beau être plus en contrôle sur les thèmes abordés, c'est quand même lui qui a écrit ou choisi le scénario, il peut être surpris par ses joueurs. L'exemple classique, c'est celui de la torture à Donjons et Dragons. Même en oubliant le fait que la torture n'est pas un moyen réaliste d'obtenir des informations fiables, c'est une scène d'une extrême violence que les joueurs demandent à leur meneur ou meneuse, qui n'a pas forcément envie d'une telle chose, ni n'a l'obligation de s'y soumettre. En tant que MJ, on nous a souvent répété « ne jamais dire non ». Et franchement, c'est vrai, dire non, c'est casser le fun de ses joueurs. Souvent, leurs idées farfelues donnent les scènes les plus mémorables. Pourtant, il y a un cas de figure où il faut dire non. Quand quelqu'un ne s'amuse pas, quand quelqu'un est dégoûté ou perturbé par un élément. Et ce, même si ce quelqu'un c'est vous, cher MJ. En tant que joueur, si ça vous arrive que votre MJ vous dise non pour des raisons de sécurité, je ne peux que vous conseiller de l'accepter. N'essayez pas de négocier ou de rappeler que les dernières fois ça s'est bien passé. Ce n'est pas la question. Peut-être que votre MJ est fatigué. Peut-être qu'il ou elle a un attachement particulier à ce PNJ. Peut-être que la méthode est différente. Peu importe vraiment. Si le MJ dit non, c'est pas drôle, mais c'est non. D'ailleurs, il y a une autre raison valable de dire non. Quand l'action entreprise peut casser le scénario. Je ne parle pas de raccourcir le scénario ou d'éviter le monstre trop cool préféré du MJ. Je parle vraiment casser le scénario, de congédier tous vos espoirs de le récupérer dans les tréfonds de l'inexistence. Sur un jeu maison de science-fiction, une sorte de huis clos dans une base sur une planète extraterrestre, le capitaine a décidé d'empêcher tout le monde de sortir pendant la nuit. C'était la réaction logique à la situation. Mais je ne l'avais pas prévu. Et de fil en aiguille, cela allait condamner le personnage d'une joueuse et faire capoter toute l'intrigue. Dans ce genre de situation, mon premier réflexe est de prétexter une pause toilette ou une pause chips, de me gagner du temps pour voir si je peux sauver le scénario. Et si je ne peux pas, je suis obligée de dire non. Et croyez-moi, je déteste ça. Qu'est-ce que dire non a à voir avec la sécurité émotionnelle ici ? Pas grand-chose. Ce qui est important, c'est moins le fait de dire non que celui de savoir qu'on peut le faire. Nous sommes humains et faillibles, et ce n'est pas grave. Peu importe qu'une session soit moins bien qu'une autre. Peu importe qu'il nous ait fallu dire non à un moment, c'est normal et c'est permis. Ne vous mettez pas trop de pression. Là encore, joueurs et joueuses, si ça vous arrive, votre maître de jeu ne dit pas non pour vous brimer. Il est responsable de votre amusement et il sait que vous vous amuserez plus avec une situation forcée que sans situation du tout. Ne l'enfoncez pas. Bon, malgré tout ce que je peux dire, ces deux cas de figure, confronter les MJ à un thème imprévu et casser le scénario, sont normalement assez rares. Mais il y a une dernière chose dont je veux parler qui est importante. Comment ça se passe, une partie de JDR en général ? Le meneur prépare un scénario, les joueurs arrivent, tout le monde joue et les joueurs repartent. Il y a une asymétrie bien connue entre les deux rôles, et les MJ savent dans quoi ils s'engagent en choisissant de l'être. Mais pensez à rappeler à votre MJ que vous appréciez ses efforts. Ce n'est pas toujours facile de se rendre compte de ce que vous pensez de son travail, surtout lorsqu'il n'a que les réactions de vos personnages. Je ne parle pas de lui mentir, vous avez le droit de désigner ce que vous n'aimez pas. Mais bien souvent, un meneur qui se met régulièrement en 4 pour ses joueurs est avant tout quelqu'un de stressé. Ne soyez pas un joueur consommateur qui vient gratuitement profiter sans reconnaître les efforts en face. Apportez un truc à manger, ayez préparé votre passage de niveau, et surtout remerciez-le à la fin de la séance. Ça ne coûte pas grand-chose, et ça fait un bien fou. Il est bien sûr possible de consacrer un temps après la partie pour discuter de comment elle s'est passée, de ce que vous avez aimé et moins aimé. On appelle ça le débriefing. Mais ça, j'en parlerai dans un prochain épisode. En attendant, puissent vos histoires être riches et vos jeux agréables.
www.radio-g.fr
Merci Nadège pour cette nouvelle chronique. J'ai hâte de découvrir la suivante, puisque ce sont toujours des choses qu'on oublie, hein, comment fonctionne la psyché des gens dans le jeu de rôle. Et j'avoue que c'est vraiment très intéressant de découvrir ces analyses de la part de Nadège. Pour continuer, nous allons écouter une interview de Bastien Lyonnais et Marc de la maison d'édition La Plume de Cyrano qui nous parlent de leur dernier jeu sorti, Tilestel. On s'excuse hein, pour le son un petit peu assourdi dû au port du masque et puis à l'ambiance très bruyante d'Octogone 2021.
Eh ben allez, vas-y, je commence. Du coup, donc, je suis Bastien Lyonnais, de La Plume de Cyrano. Voilà, très simplement, je suis un des auteurs principaux de tous les jeux qu'on édite. On est auteur-éditeur. On a édité trois gammes de jeux pour l'instant, savoir donc 17 au fil de l'âme, un jeu historique, Le Dé sur la table, un jeu campagne contemporain, et notre tout dernier jeu, donc Till Estelle, un jeu mythologique dont on est très fiers. Voilà.
Moi, c'est Marc, dans la plume de Cyrano aussi. Et alors, moi, je suis un peu auteur, j'ai participé un petit peu, mais je suis surtout relecteur, testeur et maquettiste et metteur en page pour la plume de Cyrano, du coup. Alors moi, j'ai fait du jeu de rôle dès le collège. J'avais des parents rôlistes, ce qui pour des gens de notre génération est assez rare, mais j'avais des parents qui avaient les tout premiers. J'ai des manuels, des vieux manuels collecteurs de Donjons et Dragons chez moi en anglais. Et du coup, j'ai fait plus de 10 ans de Donjons et Dragons avant de rencontrer Bastien qui m'a fait jouer à Till Estelle. On a joué un petit peu à Till Estelle et puis assez rapidement, il a eu l'idée de des premières briques pour 17. Et ça m'a beaucoup emballé et j'ai eu envie de bosser là-dessus avec lui, de faire vraiment du brainstorming, des soirées à réfléchir, du test, de l'écriture. Et c'est comme ça qu'on en est venu à avoir un jeu qu'on a trouvé quand même vachement mature. Et on s'est dit, mais quand même, il est vachement bien ce jeu. Tiens, on est content, il nous plaît, quoi. Il y a des trucs qu'on aime bien dedans. Il propose quelque chose qu'on trouve pas dans d'autres jeux de rôle. On a l'impression qu'il a quelque chose à apporter au jeu de rôle. Donc allons-y. Allons-y.
Bon, après moi, effectivement, j'ai un parcours un peu différent de Marc. J'avais pas de parents rôlistes du tout. Moi, c'est ma sœur qui m'a ramené un bouquin de jeu de rôle à la maison un jour, tout simplement. Voilà, qui m'a dit, allez, viens, on joue, ça a l'air rigolo. Et je crois que, deux jours plus tard, j'écrivais mon premier scénario. Donc ça m'a bien plu. Voilà. Ensuite, j'ai joué quelques années, après j'ai commencé à créer mes propres jeux, parce que je trouvais ça rigolo. En fait, dans le civil aussi, je fais des prototypes. Voilà, et en plus, quand je fais des jeux de rôle, aussi je fais des prototypes, et maintenant, j'en les édite en plus. Donc voilà, après là où on a vraiment, là ça a accéléré, c'est quand j'ai rejoint un club de jeux de rôle, notamment à Grenoble, donc c'est là où j'ai accéléré ma pratique, on va dire, en pouvant jouer à plein de jeux différents en club, ça c'est vraiment l'intérêt du club. Donc allez-y en club, c'est bien, c'est sympa. Et on rencontre plusieurs personnes, des personnes intéressantes et passionnées, c'est là où j'ai rencontré Marc. Et après on est parti sur la plume de Cyrano. Et ça se passe plutôt bien. C'est une entreprise qu'on a créée pour éditer nos jeux. Donc voilà, on est vraiment auteur-éditeur dans le pur sens du terme. On écrit tout, on met tout en page. C'est nous qui contactons les distributeurs, les boutiques. Et voilà, on fait quasiment tout de A à Z. Bon, on n'est pas imprimeur, mais on fait tout le reste, quoi. Alors, Till Estelle, c'est le dernier jeu sorti, c'est celui qui nous aura pris le plus de temps à faire. Ça fait au moins 10 ans qu'on est dessus. Donc c'est un jeu mythologique, qui s'inspire fortement des mythologies grecques, perses, romaines, où on va incarner un héros choisi par un dieu pour accomplir une quête divine. Donc on s'inspire vraiment des mythes de Jason, de Persée, d'Hercule, pour les revivre autour d'une table. Un peu à la sauce Till Estelle, donc c'est-à-dire en impliquant énormément les dieux, notamment dans les parties qui vont intervenir, qui vont faire des coups de crasse, qui vont nous aider aussi, qu'on va chercher leur bénédiction. On va avoir des adversaires, des némésis envoyés par une divinité, ou même envoyés aussi par les titans. On va pouvoir affronter des minotaures, des cyclopes, ou aussi lancer des sorts, combattre dans des arènes. Voilà, tout ça c'est dans Till Estelle.
La gestation de Till Estelle ? Bon, Till Estelle, c'est vrai que c'est. Alors, c'est Bastien qui a commencé à travailler sur Till Estelle il y a quand même maintenant presque 15 ans. Comme je disais, quand on s'est rencontrés en 2010, on jouait à Till Estelle. Et pourtant, c'est 17 qui a été prêt le plus rapidement. Till Estelle, à l'époque où on y jouait, le système n'était pas le même, l'univers était évidemment le même. Rien n'a bougé sur le fond. En revanche, sur la forme, sur le game design, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. 17 nous a convenu assez rapidement, mais Till Estelle, il n'était pas tout à fait carré. Il a fallu qu'il y ait du retravail dessus. Bastien a refait le système plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de travail sur Till Estelle pour arriver à la forme qu'il a maintenant, où vraiment ça roule, ça tourne. Là, il est au top, quoi, Till Estelle.
Ouais, c'est un jeu Till Estelle qui est du coup maintenant qui nous convient. Donc qui est novateur sur plusieurs points. Il a une magie libre. Pareil, t'as raison, il a une magie libre, il n'y a pas de liste de sorts. Donc les joueurs vont créer leur sort à la volée. Ce qui fait que finalement on passe beaucoup moins de temps à lire le livre, on passe plus de temps à jouer. Et cette idée-là, passer plus de temps à jouer, on l'a appliquée à toutes les règles de Till Estelle. Voilà, et c'est vraiment c'est un de nos motos, quoi. Voilà, passer plus de temps à jouer, moins de temps à, finalement moins de temps à préparer. Alors le moteur de base, c'est simple, c'est tous jouer avec 2D6, tous les jets de dés sont avec 2D6 qu'on lance, on additionne un attribut et un métier. Et voilà, mais ça faut que ça passe une difficulté donnée par le MJ. Ça c'est le cœur du jeu, très simple. À ceci, pendant les combats, on a rajouté un système de cartes. Il y a des cartes à jouer. On construit un peu son deck. Si tu veux, on a un deck de combat qui va définir notre stratégie. Quand on l'utilise, ça simule aussi la fatigue du personnage. On peut faire des combos avec ses collègues. Tu vois, un tel fait un croche-patte, ah bah comme ça il dit, oh, s'il est par terre, viens, je joue ma carte pour le piétiner, ça va lui faire plus de dommages, etc. Il y a des combos comme ça qui peuvent se mettre en place. Ça favorise le jeu d'équipe. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on aime autour d'une table de jeu de rôle. Généralement, c'est quand on joue ensemble. C'est une très bonne raison. Et bien, le jeu le favorise. C'est écrit dans le game design. Et moi, je trouve ça super.
Comment ça a fonctionné, la création de jeu? Donc, Bastien, plutôt création globale. Et puis, Marc, relecture, retravailler derrière ou...
Exactement, Bastien, donc Bastien écrit. Bastien écrit beaucoup. Il écrit du lore, il écrit des scénarios, des campagnes. Bastien écrit des trucs. Et moi, il m'envoie des pâtés de texte. Et alors après, moi j'aime bien les lire. Donc j'ai fait pas mal de parties de Tillestel, évidemment. J'ai joué à beaucoup de quasiment tout ce qui est sorti. Bah, j'y ai joué, Bastien aussi, évidemment. Hein. On ne publie pas un scénario sans l'avoir joué, testé, etc. Donc moi j'ai testé tout ça, j'ai testé les cartes, j'ai fait des retours aussi, et donc c'est là où j'interviens beaucoup, c'est que j'essaye d'avoir un œil nouveau. C'est très compliqué quand tu travailles sur un jeu depuis 12 ans de voir que certaines choses peut-être ne marchent pas. Toi, t'as eu l'habitude de les expliquer 2000 fois, mais en fait elles sont peut-être pas si faciles que ça à expliquer. Finalement, c'est pas évident quand tu débarques là-dedans. Donc du coup, essayer de simplifier certains aspects sans dénaturer, parce qu'il y a un moment où on peut pas non plus dénaturer totalement la mécanique. Hein. Moi, j'essaye de respecter le travail de Bastien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein, j'aime beaucoup les mécaniques de base, donc je voulais surtout pas les dénaturer, mais essayer quand même de remarquer quand même les défauts au maximum. L'objectif de remarquer les défauts, c'est pas de dire c'est pas bien, c'est d'essayer de les corriger. Donc évidemment, moi je suis là pour ça. Donc Bastien sait que la plupart de mes retours, alors je me force à faire beaucoup de retours, enfin je me force, évidemment je fais plein de retours positifs parce qu'il y a plein de choses positives, mais la plus-value elle se fait évidemment sur les retours un petit peu des choses à revoir. Là-dessus, voilà, que ce soit sur le système, sur le style, sur le texte, que ce soit sur l'univers, j'ai fait pas mal de retours aussi, évidemment, de cohérence. Des fois, moi, comme je lis tout d'une traite, après je peux dire, là ça colle pas avec ça, ça t'en parle, mais en fait ça tombe comme un cheveu sur la soupe, on comprend rien. Donc du coup, il y a des petits bouts que je lui ai fait réécrire. Il y a un petit bout que je me suis amusé à écrire moi-même d'ailleurs, mais globalement c'est quand même du Bastien.
Ouais, non, mais c'est ça, hein, il me force à me retravailler, voilà, et comme ça on s'améliore. Il n'y a pas de secret, hein, faut se remettre en cause.
Qu'est-ce que c'est l'actu de Tillestel actuellement, et quelle est sa date de sortie, comment il a été arrivé sur le marché?
Alors, il y a eu un financement participatif l'année dernière, pendant le mois de mai 2020. Du coup, le jeu est sorti là, au mois de juin 2021. Et donc, il peut maintenant le retrouver en boutique, toutes les boutiques spécialisées. Forcément. Et c'est les campagnes, c'est-à-dire que là j'en ai deux campagnes de prêtres, donc on va vouloir les publier parce qu'elles sont honnêtement elles sont sympas. On a fait les parties, vraiment les retours font vraiment plaisir. On a notamment une campagne, en gros on a les ennemis qui deviennent les ennemis deviennent les amis et les amis deviennent les ennemis. Je vais pas en dire plus pour pas spoiler, mais il y a des beaux retournements de situation comme ça, et ça fait vraiment plaisir quand ça se passe comme ça autour de la table, quand les joueurs jouent avec ça. Donc ouais, ça promet. Et ça on le prépare pour début 2022, pour mettre tout ça en place. Donc ça sera une campagne, la première donc campagne dont j'ai parlé sera un peu plus linéaire, une deuxième sera plus bac à sable, comme on dit. On rajoutera aussi des extensions de règles. Et voilà, et après on embrayera sur la suite. On a encore plein d'autres idées, on va pas trop en dire. On en garde sous le coude.
Tester les fameuses campagnes?
Pas encore. Pas les campagnes. Il y a d'autres scénarios que j'ai testés, évidemment. Il y a aussi les règles d'extension. Donc là, il y a pas mal et encore de la matière à regarder, à lire. Donc ouais, là, je me suis plongé là-dedans. Évidemment, l'objectif, c'est d'essayer de dire.
Mais Marc peut pas dire, mais il rajoute des règles d'extension en plus. Mais elles sont géniales. Il n'ose pas vous le dire, mais elles sont géniales.
Alors déjà il y a la suite, mais déjà Till Estelle, il y a quand même de quoi faire, parce qu'il y a la boîte de base qui est vraiment un jeu complet avec plusieurs, les bouquins, les aides de jeu, et puis en plus de ça il y a l'écran, des scénarios supplémentaires au total. Il y a 7 scénarios qui sont déjà disponibles pour Till Estelle. Il y a déjà pas mal de contenu quand même, il y a déjà de quoi faire. Ça nous a pris un an pour entre le financement participatif, on espérait que ça se passe plus vite, mais l'actu de Till Estelle, c'est déjà la boîte de base et ses 2 suppléments qui sont disponibles. Et évidemment la campagne, parce qu'on sait qu'il y a toujours des gens qui ont envie de partir sur 12 séances. Donc évidemment que la campagne va arriver le plus vite possible.
Ok. Peut-être l'avenir de la plume de Cyrano ?
L'avenir de la plume de Cyrano, c'est ce que disait Bastien. Nous, on en a encore sous le coude. Il y a des trucs qui sont écrits, il y a des idées. Alors, on est 2, donc on va à la vitesse de 2 personnes qui font ce qu'ils peuvent, mais on le fait toujours avec plaisir. On le cale ça comme on peut, mais on avance. Il n'y a pas de problème, on est toujours là.
Si vous deviez convaincre quelqu'un d'acheter votre jeu plutôt qu'un autre, alors en quelques mots.
Till Estelle, c'est dément, tout simplement. C'est dément, c'est un jeu complet. Dans la boîte, vous aurez tout. Absolument tout. Un système de magie nouveau, un système de combat nouveau, un univers complet, des monstres originaux, des scénarios. Pour être honnête, Till Estelle, c'est le jeu avec lequel j'aurais aimé découvrir le jeu de rôle. J'aurais été adolescent, je l'aurais vraiment aimé. Bon, maintenant, non, c'est raté, j'ai plutôt la trentaine.
Moi, ce qui m'a rendu dingue de Till Estelle pendant des mois et des mois quand je jouais avec Bastien, parce qu'on a, je ne peux pas dire des années, on n'a pas joué non plus des années, mais ce qui m'a rendu fou pendant des mois et des mois, c'est son baromètre divin. Le baromètre divin dans Till Estelle, ça n'a aucun intérêt mécanique. C'est pas un truc d'optimisateur, hein. Ça nous rend pas plus fort. Par contre, j'avais tellement envie de plaire au dieu de la liberté, mais alors, tout ce que je faisais, c'était pour plaire au dieu de la liberté. Il m'a jamais regardé, il a jamais voulu de moi. Quelle déception. Mais ça, c'est vraiment l'âme de Till Estelle pour moi, c'est ça, c'est la présence du regard des dieux. Et ça, en tant que joueur, je trouve que c'est vraiment un sentiment que j'ai eu que dans Till Estelle.
Je remercie Marc et Bastien de cette interview qu'ils m'ont accordée à Octogone cette année. Le jeu Till Estelle est disponible dans toutes vos bonnes boutiques de jeux de rôle. Pendant que nous installons le monde et chauffons le scénarium, ou l'inverse, nous vous invitons à une légère pause musicale avec une chanson définitivement saut 80. Il s'agit de Nena avec 99 Luftballons. Comme je parle pas allemand, on va falloir se contenter de ça.
Radio G 101.5 FM.
Vous venez d'entendre Nena 99 Luftballons sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans les voix du scénarium. Écoutons à présent les voix. Dans l'épisode précédent, les voix incarnées par Marc, Thierry, Cyril et Julie se sont lancées à la poursuite d'une créature dans les bois. Nous les avons laissées rapidement lorsqu'ils atteignirent la cabane du garde-chasse. Reprenons le cours du récit.
Est-ce que je le connais, moi ?
Tu l'as déjà rencontré ? C'est un monsieur assez bourru, avec une espèce de gilet sans manches vert, toujours habillé en vêtements type treillis. Le mec a l'air globalement sympa, mais t'as jamais vraiment engagé la conversation. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a vu, mais le mec vit plutôt de manière assez isolée. Hein.
Vous inquiétez pas, je le connais. Bon, il est un peu ours, mais un ours gentil. Donc...
Merde. Oui, oui.
Donc, vous en faites pas, il répond pas beaucoup, mais il est gentil, il nous aidera.
Et du coup, tu crois qu'il connaît les bestioles ?
Ah, bien sûr. Il faudrait juste le trouver, voir s'il est chez lui, et puis s'il est pas là, ça pourrait être une bonne idée d'essayer de le trouver pour lui demander son avis.
Bon, ouais, encore nous raconter des cracks.
On verra bien, ça nous donnera une piste pour commencer l'enquête. Oh, je cogne à la porte.
Ok, tu frappes. T'entends? Ouais, c'est qui?
C'est Louis! Je suis avec Wolf!
Louis? Ah, Louis!
Oui, Louis!
Attends, j'arrive. Hop. Et là, vous voyez le gars qui sort, il ouvre la porte, ça grince un petit peu. C'est une vieille cabane quand même, bien entretenue. Ouais, mais.
Salut, vous allez bien? La forme?
Ouais, mais vous faites quoi par là, les enfants?
Et on a vu des bêtes dans les arbres.
Des bêtes?
Oui, on croit que c'est les lynx, ou des trucs du genre.
Peut-être le Predator.
Le quoi?
Ou peut-être un alien aussi.
Voilà, on a plusieurs doucement, pistes. Les enfants.
Ouais.
Attendez, un Predator, un alien, c'est quoi ces trucs-là?
Mais si, vous savez, c'est comme dans le film. Predator, le film Alien.
Ah, mais je regarde pas les films, moi.
Ah. Et non, il a pas la télé ici.
Vous connaissez pas Schwarzenegger?
C'est quoi, c'est un Autrichien, ça, encore? Oh. Non, par contre... Les bestioles, là, c'était comment? Décrivez-les-moi un petit peu.
C'était dans les arbres, ça sautait.
Des...
À peu près...
Grosse comme ça, il met ses mains, effectivement, la taille d'un chat.
Ouais, c'est ça, à peu près.
Ah, mais ça, c'est normal, c'est les gardiens, ils sont chargés de l'entretien. C'est des petits robots qui font l'entretien de la forêt.
Ah, mais vous m'en avez jamais montré.
Il m'en a jamais parlé,
Mais
on peut en voir un.
S'ils font l'entretien de la forêt, ils sont toujours dans la forêt normalement.
Ah ça oui.
Parce que
c'est leur périmètre de sécurité. Ils entretiennent la forêt, ils enlèvent les petits bois morts, les petites choses comme ça.
Et pourquoi il était pas dans la forêt l'autre?
Ben moi j'en ai vu un qui était pas dans la forêt. Il était en train de fouiller dans une poubelle.
C'est pas possible.
Ben si, je vous jure, je l'ai vu. Hein. Bah,
je sais pas ce que tu as vu, mais ils ont un programme qui font qu'ils ne sortent pas de la forêt.
Ben celui-là, il était pas dans la forêt. Alors à moins qu'il Il ait pris une poubelle pour une forêt, mais il
n'était
pas dans la forêt.
Et tu n'aurais pas pris un animal pour ce genre de petites choses? Ce serait facile de confondre, vu la taille.
Bon, je crois pas. Hein. Je suis pas sûr. Oui, je suis pas sûr.
Faudra vérifier la prochaine fois.
Oui.
Mais normalement, ils sortent pas de la forêt. Hein. Après, faudra voir vis-à-vis de leur concepteur. Alors, c'est les gens du Loup qui ont créé ces petites créatures pour aider à l'entretien.
Ouais...
Moi je crois quand même que c'était ça. Ça ressemblait beaucoup.
Moi je te crois, Justine.
Merci.
Alors pour ceux qui se disent, qui nous écoutent, pas de smartphone à l'époque pour prendre en photo le truc d'instinct et pouvoir sortir.
On a des robots mais pas de smartphone.
Non, vous avez des appareils photo, hein, mais argentiques.
Oui, mais c'est ça. Ouais.
On a les Kodak. Ouais.
Les Polaroids, ça existe encore déjà à l'époque.
Ouais.
Ça reste pas courant pour les enfants d'avoir ce genre de choses. Mais du coup, vous voulez que je fasse quoi, les enfants? Parce que moi, j'ai un petit peu de travail, là, il va falloir que j'aille faire ma ronde.
Est-ce qu'on peut en voir un, en vrai? Et comme ça, Justine, elle pourra voir si c'est ce qu'elle a vu.
Bah, je peux faire un coup de route avec vous pour voir si, effectivement, on en voit un, mais...
Ouais.
Ok. Bah, attendez, vous attendez 5 minutes, je me prépare, là, et puis on y va.
Oui, il faut terminer votre petit déjeuner, c'est le moment le plus important de la journée.
On est le soir, hein, Louis.
C'est plus
un peu perturbé.
C'est Madame Brousset qui l'a dit ce matin.
C'est bien. C'est bien.
Bien quoi ?
On voyait qu'il retourne de l'autre côté, il prend une espèce de sacoche avec divers outils dedans. Il commence à fouiller un peu partout, et puis... Bon, il sort, il a l'air un peu renfrogné, il fait bon, c'est bon, on y va.
Moi, pendant qu'il est en train de fouiller, j'en profite juste pour prendre mes potes à l'écart. Mais il est en train de nous raconter des cracks, là. Là, il nous embobine avec son histoire qu'ils ne peuvent pas sortir de la forêt. Il va nous emmener sur un truc évident, mais il nous embobine, hein. Il faut se méfier. Hein.
Et puis moi, je suis sûr que c'est ce que j'ai vu. Hein.
Bah, ouais, mais non, sûr. Mais il a l'air gentil quand même. Hein. Je veux dire, voilà, il fait son boulot. Hein.
Ouais, mais t'as pas regardé les films, toi? À chaque fois, le gars qui est gentil comme ça, qui a l'air gentil, en fait, c'est juste le gros traître.
Mais non, mais il a les mêmes muscles que Schwarzenegger, il doit le connaître quelque part, moi je dis.
Ouais, donc, gaffe, il revient.
Et effectivement, il revient, donc il a mis une espèce de surveste sans manches. Il s'est mis une casquette, la casquette de chasseur à rabat, là. Et puis il a une espèce de pochette, une sorte de sac en cuir, vaguement vieux sac militaire. Et bah, il fait bah, on va marcher, il y a une clairière un peu plus loin, on va peut-être croiser quelque chose d'ici là.
On va suivre
les gars.
Mmh. Ouais, ouais.
Bon, les gars, les filles.
Oui, hein, ce serait gentil de pas m'oublier. Moi, toute seule dans la forêt, j'ai peur. Hein.
T'en fais pas, Wolf te protégera.
Ouais.
T'inquiète, je suis là.
Et vous commencez à arpenter un petit peu, donc vous voyez qu'il fait, qu'il regarde certaines marques sur les arbres, il commence à structurer un petit peu, il fait son job en fait au fur et à mesure. Puis vous voyez qu'il y a une espèce de parcours prédéfini, il s'éloigne pas d'une sorte de petit chemin qui a l'air de mener à un autre endroit. Et effectivement, à un moment, vous arrivez sur une clairière qui fait 2-3 mètres de diamètre, pas vraiment très très grande. Et il fait, bah voilà, là on a fait le petit trajet, ça vous a pris 20-25 minutes. Hein. Et il fait, bah on n'a pas vu hein, de gardien.
Bah non.
Après, c'est des créatures qui sont, enfin, c'est des robots qui sont là pour être hyper discrets, pour pas perturber, on va dire, le rythme naturel. En général, ils se montrent pas. Hein.
Tu m'étonnes.
Bah c'est nul, moi je voulais en voir.
Bah ouais, moi aussi, comme ça j'aurais été sûr que c'est bien ce que j'ai vu dans les poubelles.
On avait vu des trucs particuliers à l'endroit où on a vu les gardiens ou pas?
Non, pas vraiment.
Des marques sur les arbres, des...
Vous n'y avez pas prêté attention à ce moment-là. Ça vous a perturbé de voir ces petites créatures, de ne pas savoir ce que c'était? Ce qui fait que vous n'avez pas vraiment prêté attention au reste pour voir s'il y avait effectivement des choses particulières ou des marques particulières.
Mais monsieur le garde-chasse,
oui.
est-ce qu'on peut les prendre avec nous? Les gardiens. Parce que si on retourne dans la ville et qu'on prend le gardien qui était dans les poubelles, et on le retrouve, et qu'on vous le ramène, vous pourrez nous dire si c'est un gardien ou pas.
Ah bah oui, après normalement les gardiens ils sont sortis de la forêt uniquement quand il y a de la maintenance à faire. Mais ça arrive une fois tous les 6 mois.
Mais tout à l'heure vous m'avez dit qu'ils ne pouvaient pas sortir de la forêt, que c'était pas possible.
Ils sortent pas d'eux-mêmes. C'est nous qui allons le chercher.
Ah, tiens.
Ils se mettent en stand-by au pied d'un arbre quand ils ont pour fin de batterie ou des choses comme ça. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut le récupérer.
D'accord, mais s'il est en train de faire quelque chose, je peux pas le prendre dans mes mains.
Normalement, non. Il s'en ira. Soit il finit ce qu'il avait à faire et après il s'en va. Soit il va essayer de finir ce qu'il avait à faire.
D'accord. Faut qu'on essaye de capturer le gardien qui est dans la ville. Comme ça, on vous l'emmènera. Comme ça, vous saurez qu'il y a des gardiens qui sont pas dans la forêt.
Ok. Ça me paraît être une bonne idée. Comme ça, au moins, tu pourras me montrer que c'était bien un gardien.
Oui.
Et si c'était un chat, bah, t'auras un animal de compagnie.
Ouais.
On l'appellera Schrödinger.
D'accord.
Bon, écoutez les enfants, c'est pas que je veux vous envoyer promener, mais moi, j'ai un travail à faire. Je vous souhaite une bonne journée ou vous voulez que je vous raccompagne?
Non, ça va aller, on connaît.
Ouais, moi j'aime bien le lieu.
Ok. Bon, vous voyez qu'il reprend un autre chemin et qu'il continue un petit peu plus loin.
Bon, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé Predator.
Ah
oh, ouais, c'est vrai. Parce que bon, là, les gardiens, c'est bien gentil, mais bon, c'est juste des robots, quoi. Ouais. C'est Predator que je voulais voir, quoi.
Mais on va peut-être pouvoir le réparer, puis peut-être qu'il marche mal et c'est le début d'une invasion de robots vengeurs, comme dans...
Ouais, mais si c'est des tout petits robots vengeurs, moi je trouve ça quand même moyen, quoi. Hein.
Mais après,
les
le gardien.
Des petits robots, c'est triste.
Mais ouais. Le gardien, il a fait semblant, peut-être qu'il connaît en fait le monstre. Faudrait peut-être qu'on le suive.
Ah, tu crois que tu
on lui a
rien
pas parlé. Si, ouais, on lui a parlé du monstre.
Et ça se trouve, ouais, c'est un agent envoyé par le prédateur pour nous espionner.
Mais ouais.
Le monstre est un extraterrestre qui a reprogrammé les gardiens.
Ça se trouve, c'est lui le monstre, il se déguise en gardien.
Bon, il faut qu'on trouve le gardien.
Il faut qu'on le suive.
Ouais. Par contre, on fait comment? Il faut fabriquer un piège pour l'attraper. Il me faut du papier, un crayon.
Tu veux pas qu'on essaye juste de le suivre
Tu vois que je t'écoute déjà plus. Je suis en train de... J'ai sorti mon carnet, mon crayon.
Il commence à gribouiller pour essayer de préparer un piège. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez dans cette clairière, vous commencez à rebrousser chemin, vous suivez le même chemin.
On retourne à la cabane.
Bah, s'il veut gribouiller, là, il faut peut-être pas bouger, non?
Ah, je peux le faire en marchant.
Ah, bon, ok.
Ça marche. De toute façon, on sera plus à l'aise à la cabane pour discuter de nos théories.
Ouais.
Ouais.
D'ailleurs, vous voyez que je suis habitué à être en forêt, puisque les racines, je les évite sans regarder.
Voilà. C'est un peu rustique.
Voilà.
Et vous reprenez le même petit chemin, vous commencez à quand même à surveiller un petit peu parce que ça vous a intrigué, ces espèces de petites créatures, et vous commencez à vraiment les chercher. Je peux vous faire refaire un jet de découverte.
Réussi.
Une réussite aussi.
Pareil.
Bah, ça y est, on est rodé, on commence à savoir ce qu'on
fait. Pareil, réussi.
Ok. Et vous arrivez à détecter quelque chose, mais c'est pas... Au départ, vous pensez pas que c'est un des gardiens. Il y avait une espèce de reflet brillant dans un des arbres. Et puis, vous avez remarqué que c'était peut-être quelque chose qui était... Et vous avez remarqué que dans les arbres, il y a une espèce de petit truc brillant qui a l'air d'être posé là, perdu peut-être. Vous savez pas trop ce que c'est. C'est pas... Ça bouge pas. Mais ça a des reflets métalliques.
Hey, vous avez vu là-haut?
C'est Predator, t'avais raison. Il est là.
Il ouais, faut qu'on aille voir
il y a
ça.
Un truc là.
Alors, comment il fait? T'as pas une gueule de porte-bonheur?
Le truc dans les arbres ne te répond pas. Ça n'a même pas l'air d'avoir scié.
C'est haut?
Ça. Peut-être 4-5 mètres de haut?
Il y a moyen de grimper. Il y a des branches qui ferment.
Ouais. Ouais, il y a quelques branches basses, donc les branches qui sont en bas sont plus fines en règle générale. Mais il y a moyen d'arriver à grimper si.
Je vais essayer, moi. Moi, je vais aller voir.
Vas-y. Okay.
Moi, fais attention, hein.
J'attrape un caillou prêt à le lancer au cas où.
Vas-y, je veux bien essayer de venir avec toi si tu veux.
Alors, l'arbre n'est pas ultra grand, ça veut dire que c'est l'un ou l'autre.
Bon, ben, vas-y si tu veux.
Tu me fais un jet d'agilité?
Si je m'aide à la force des bras, c'est pas plutôt force?
Ouais, ça peut être force, ouais.
Mais... Tu veux que je t'aide, que je te fasse la courte échelle?
C'est bon.
Donc t'arrives à grimper, alors effectivement tu te hisses à la force des bras au départ, tu loupes une branche ou deux, tu manques de tomber quand même une fois ou deux, et puis t'arrives jusqu'en haut, et là tu tombes sur un... C'est coincé en fait entre deux branches. Comme si c'est quelque chose qui avait été amené par là, puis qui était resté coincé, puis qu'on n'avait pas réussi à enlever.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est une espèce de petite boîte métallique qui fait à peu près la taille d'une boîte à goûter. Et dessus, il y a une espèce de symbole, une espèce de croix rouge.
Croix rouge, comme une croix rouge, quoi.
Comme une croix rouge.
Une boîte de secouriste, quoi.
Voilà.
T'as trouvé le Predator?
Je suis pas sûr. Attends, bouge pas. Ça souffre ce truc là.
La boîte. Alors, tu fais. Je te fais pas. Je vais pas refaire de jet de force là-dessus. Mais effectivement, faut que t'arrives à la décoincer. Donc ça te demande quelques instants. Puis t'es pas ultra à l'aise. Puis t'arrives à la tirer. Elle est un peu cabossée, donc t'as un petit peu de mal à l'ouvrir. Mais oui, tu peux l'ouvrir. Et à l'intérieur, t'as une espèce de petite trousse de secours.
Comment ça atterrit là, ça? C'est rien, c'est une trousse de secours en fait.
Ah, vas-y, fais voir.
Ouais, descends là.
Je leur balance.
Ouais, elle tient bien fermée en fait, elle arrive au sol, elle s'ouvre pas. Et effectivement, t'as pas trop de mal à redescendre. Et effectivement, vous ouvrez cette petite boîte dans laquelle il y a une petite paire de ciseaux, une pince à épiler, il y a deux aiguilles, il y a une espèce de petit truc, une petite seringue avec un petit flacon. Quand vous lisez dessus, c'est un sérum anti-venin. Il y a quelques pansements, les pansements assez larges avec couleur chair, là, avec les vieux pansements. Enfin, ils sont neufs pour vous, mais vieux pour nous. Donc c'est une trousse de secours, une bête trousse de secours. Ah, sauf qu'à 4 ou 5 mètres du sol, pas vraiment sa place là habituellement.
D'accord. C'est bizarre, hein, je sais pas comment ça a pu atterrir là-haut, ça.
Ben moi, je pense, je sais, c'est quand le prédateur il prend les gens, ben après il lâche des affaires et du coup ça a dû tomber dans l'arbre.
C'est ça, un commando.
Ouais. C'était le médic.
Ouais.
Mais du coup, faut la garder avec nous parce que si on a rencontre le prédateur, bah, ça pourrait peut-être nous sauver la vie.
Ah bah, carrément.
Et puis en forêt, il faut toujours être très prudent, donc avoir des pansements, ça peut être pratique.
Et en disant ça, tu te dis que effectivement, en forêt, il faut être prudent, mais il faut aussi avoir un peu de lumière quand la nuit commence à tomber. Et c'est exactement
c'est
le cas.
Merde.
Désolé, j'avais pas fait gaffe à l'heure. Il va falloir que on tarde pas trop parce que mon papa m'attend et je dois préparer le repas ce soir.
Il est quelle heure? On est à quelle période de l'année d'ailleurs?
Là, vous êtes plutôt début d'automne et du coup, la nuit, elle commence à tomber sur les coups de 20h à peu près.
Ce soir, je vais bricoler le piège et demain, on pourra essayer d'attraper le gardien.
Ouais. Bah, je peux prendre la trousse si vous voulez, à moins qu'il y en ait un qui la veut.
Non, vas-y, prends-la, mais oublie pas de la rapporter demain.
Ouais, du coup, j'ai mon porte-cassette.
Sinon, on peut peut-être la déposer à la cabane en rentrant.
Ouais, je vais faire un crochet.
Ouais, c'est vrai qu'à la cabane, comme ça, on saura où la retrouver, et puis n'importe lequel pourra la récupérer au cas où.
Ouais, je t'accompagne.
Vas-y, on fait un crochet par là.
Super. Donc, vous redéposez la petite trousse de secours directement à la cabane et vous vous séparez pour rentrer tranquillement chez vous. Est-ce que vous faites des choses sur le trajet de retour chez vous?
Bah, si on retourne en retournant en ville, en fait je repasse à côté du drugstore.
Ouais.
Enfin de la droguerie pour voir si oui, bon,
French of course.
C'est ça. Donc de la droguerie, si je vois pas le petit gardien que j'ai cru voir, parce que je suis sûre que c'était un petit gardien.
Tu passes à côté, tu commences à aller dans la zone précise en fait pour fouiller un petit peu, et tu as des poubelles, t'as des choses, t'as pas de bestioles à proprement parler. Tu vois juste que y a des sacs poubelles qui ont été éventrés. Tu sais pas par quoi. Ça a été éventré de manière assez sommaire. Par contre, tu sais que c'est pas, ça a pas l'air d'être un chat qui l'aurait éventré.
C'est pas des coups de griffes.
C'est déchiré. On a pris le plastique du sac pour vraiment le déchirer. C'est pas des coups de griffes, non.
D'accord. Mais j'étends un tout petit peu parce que faut que je rentre aussi, mais j'étends un tout petit peu le périmètre de recherche, voir s'il s'est pas caché quelque part. Sinon, je veux pas mettre les mains dans les poubelles. Non.
Et tu commences à regarder autour et. Non, t'as pas vraiment l'impression qu'il y ait quelque chose autour.
Zut.
Comment se passent vos soirées de retour à la maison? Bon, on va commencer avec Cyril cette fois-ci.
Bah, comme je le disais, en fait, bon, je rentre, je prépare le repas pour papa. Je passe un peu de temps avec lui. Généralement, il couche tôt. Donc à partir de là, j'ai un petit coin dans le garage qui me sert d'établi. Donc je ressors mes plans et je continue à travailler là-dessus et je commence à bricoler un piège, genre de boîte avec un truc qui se referme. Voilà.
Ok. Julie ?
Ben moi, mes parents ne sont toujours pas rentrés, donc ce sera encore une soirée toute seule. Donc là, je mets la radio à fond pour justement essayer de me rassurer un petit peu parce que je suis toute seule dans une grande maison. Et puis je vais commencer à dessiner ce que j'ai vu, le petit gardien. Et puis j'essaye de dessiner aussi le monstre tel qu'on a pu nous le décrire pour pouvoir mener l'enquête plus profondément le lendemain. Mais sinon, ouais, c'est une soirée solitaire, comme j'en vis régulièrement dans mes semaines.
Ok. Thierry ?
En rentrant, ma mère est là, elle ne travaille pas. Papa n'est pas là, donc tout simplement, j'ai dîné, je me remets de la musique. Je pense que je passe sur le Back in Black d'ACDC, l'album à grand classique. Et j'attends toujours que mon père revienne pour me, avant d'aller me coucher, parce que c'est l'un des rares contacts que j'ai avec lui, comme il bosse beaucoup.
Ok. Et Marc ?
Eh ben moi, quand je rentre, mon père est assis devant la télé, pardon. Il est déjà bourré, ou encore bourré, toujours bourré en fait. Il est en train de looser avec une bière à la main. Mon frère, du fond de la cuisine, m'agresse en fait. Il est en train de gueuler. C'est à cette heure-ci que tu rentres. Il est en train de faire manger ma sœur en fait. Il a préparé à manger et il y a à la table, il y a ma place qui est inoccupée. Moi, je chope une assiette, je la remplis de pâtes et de jambon, ce qu'il a préparé comme d'habitude. Je me dépêche de manger, je ne prête même pas attention et puis je file dans ma chambre. J'essaie de, comme d'habitude, d'être. J'écoute pas ce qu'il me dit, il me saoule de toute façon, c'est clair. Puis je me mets dans mon lit, je chope une BD là, que j'ai déjà lue 350 000 fois, histoire de me sortir un peu de cet environnement très très lourd. Et puis machinalement, je joue avec mon briquet. Et puis le paquet de cigarettes qui est là, que j'ai depuis quelques temps, qui me rassure quelque part, qui me fait penser à ma mère. Qui est morte il y a quelques années maintenant, et en fait c'est elle qui fumait et j'ai récupéré ça quand elle est morte, et ça me rappelle un peu sa présence. Et puis bon, je finis par m'endormir.
Et en venant de coucher les voix, et nous allons les laisser profiter de cette nuit de repos bien agitée. J'espère que cette émission vous a plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour arpenter et entendre à nouveau les voix du scénarium.
Hast du etwas Zeit für mich, singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich, dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons, dass sowas von sowas kommt.
Zu the same.